Et cette semaine, Daniel Habert se penche sur la situation de l'État d'Israël, qui est de plus en plus difficile d'un point de vue géopolitique et aussi en termes d'image et de communication. Voilà donc Daniel Habert qui répond aux questions de Blaise van der Linden.
Daniel Habert, bonjour.
Bonjour Blaise et bonjour chers amis.
Merci d'être avec nous ce matin, comme tous les lundis matins, pour les conversations sur Radio Judaïka. Alors la semaine dernière, Daniel, vous évoquiez une situation difficile actuellement pour Israël. Cette situation s'est-elle aggravée après les événements du week-end dernier par rapport à ce que nous disions la semaine passée?
Hélas oui, ce missile qui est tombé dans la zone de l'aéroport et puis cet accord, ce cessez-le-feu séparé entre les États-Unis et les Houthis, c'est un peu la même chose, hein, c'est avec les Houthis, oui, donne un sentiment d'aggravation de la situation. Je voudrais peut-être expliquer pourquoi. Rappelons ce que je disais la semaine dernière sur la situation difficile très rapidement. D'abord, il y a les divisions internes à Israël, où le chef de guerre, qui est le premier ministre aujourd'hui, il fait l'objet de pressions constantes et donc difficile pour lui de gérer la guerre en même temps que ces pressions. Deuxièmement, je rappelais que même si tous les ennemis d'Israël ont été affaiblis, ils sont toujours là et ils ont une seule obsession, se reconstituer et recommencer. Il faut jamais l'oublier. La troisième, c'est que même affaiblis, tous ces ennemis d'Israël mènent une sorte de guerre d'usure dont le but, au fond, n'est pas de gagner, n'est pas de vaincre Israël, mais de polluer la vie des Israéliens, et je peux vous garantir qu'ils y arrivent. La quatrième, c'est qu'il y a une guerre de communication dont on parle depuis le 7 octobre, enfin depuis le 8 octobre, qui a commencé, qui est menée par l'islamisme mondial et qui s'appuie aujourd'hui sur Gaza, sur les images de Gaza qui sont évidemment exploité pour détruire encore plus l'image d'Israël. Et puis il y a en dernier lieu les prémices d'une négociation avec l'Iran. Ça se passe à Oman, mais ça se passe sans les Israéliens, hein. Netanyahou est mis sur la touche par Trump. Donc tout ça, c'est une situation difficile. Qu'est-ce qu'apportent les tirs du missile et la paix séparée? C'est que d'abord, derrière tout ça, il y a l'Iran. C'est-à-dire qu'on voit bien que le missile, c'est un missile iranien qui a été tiré par les Houthis, et que les Iraniens testent les progrès technologiques qu'ils sont en train de faire, ces missiles hypersoniques qui peuvent passer le dôme de fer, enfin les différentes couches du dôme de fer. Ça, c'est extrêmement inquiétant. Et puis on voit bien que en faisant cela, l'Iran prépare sa négociation avec les États-Unis en disant deux choses, hein, avec ce missile. Regardez, hein, on est capable de répliquer, hein, c'est une forme de dissuasion. Et puis deuxièmement, c'est un renforcement de la position de négociation des ayatollahs face aux Américains. Ne nous poussez pas trop loin parce qu'on a de la réplique.
Justement, hein, Daniel, vous évoquez l'Iran, on l'évoque souvent depuis le 7 octobre 2023. Comment se présentent les négociations avec la République islamique?
Alors, elle se passe bien du point de vue américain, très mal pour Israël, parce que Israël, d'une part, est mis de côté, et deuxièmement, parce que on voit bien que on se dirige vers un mauvais accord. Alors, je ne sais pas s'il sera aussi mauvais que l'accord de 2015, dont Trump lui-même était sorti, mais on voit bien que les lignes rouges qu'ont indiqué les Iraniens n'empêche pas l'engagement d'une négociation, et ces lignes rouges, c'est ne touchez pas à mon programme nucléaire, on veut bien arrêter de le développer pour l'instant, rester un pays du seuil, comme on dit, mais on veut pas le démanteler. Alors ça, c'est la demande israélienne, le démantèlement. Donc tout ce que demandent les Iraniens risque d'être accordé par un Trump qui est pressé de signer un accord, et donc ça risque d'être un mauvais accord qui, s'il comporte une levée même partielle des sanctions, renforcerait le régime et renforcerait l'appui du régime à tous les ennemis d'Israël, ces fameux boucliers qu'Israël a devant lui. Et donc voilà, ça s'engage mal, voilà, pour Israël.
Oui, Daniel, vous dressez un tableau assez pessimiste. Que peut faire Israël dans cette situation?
Pour l'instant, Israël peut négocier avec les Américains avant qu'on signe un mauvais accord. J'ai l'impression que ça sera difficile. Donc la question, c'est qu'est-ce que peut faire Israël en cas de mauvais accord? Qu'est-ce qu'elle peut obtenir venir après ce mauvais accord, comme compensation au fond des États-Unis. Alors les États-Unis sont toujours prêts à promettre à Israël plus d'argent, plus d'informations, plus de soutien, mais inversement, ça aggrave la dépendance d'Israël vis-à-vis des Américains, ce qui n'est jamais une bonne chose pour aucun pays de trop dépendre des Américains. Israël peut aussi espérer d'autres compensations plus géopolitiques. C'est ce qui se négociera dans les prochaines semaines. C'est comment intégrer l'Arabie Saoudite à un vaste front anti-iranien qui a été initié par les accords d'Abraham. Donc, si l'Arabie Saoudite s'y joignait, si on pouvait aussi faire en sorte que l'Égypte et la Jordanie sont en paix avec Israël, mais c'est une paix froide, pouvaient aussi rejoindre une espèce d'axe anti-iranien, ce serait une protection relative meilleure pour Israël. Il faut aussi, ces derniers points, trouver un accord avec la Turquie, parce qu'Israël est aujourd'hui face à la Turquie en Iran. Hein, les Turcs sont au nord, les Israéliens sont au sud, donc ils se retrouvent face à face en Syrie. Et par bonheur, les Américains ont gardé un bon rapport avec la Turquie. Est-ce que les Américains peuvent trouver une solution pour comment dire, diminuer la dangerosité de la Turquie.
Quels sont les obstacles alors auxquels se confronte Israël?
Écoutez, c'est très, c'est, il y a deux obstacles principaux. D'abord, c'est que tous ces pays avec lesquels les États-Unis vont discuter, que ce soit l'Iran, mais après l'Arabie Saoudite et la Turquie, se posent la question de la crédibilité américaine. Comment croire à toutes les promesses américaines lorsqu'on voit ce qui s'est passé et lorsqu'on écoute Trump? C'est ça peut-être la base. Et ces pays en plus sont en train de se poser la question de la vulnérabilité aussi d'Israël. 7 octobre, ça a jeté un choc tout autour d'Israël. Comment Israël a-t-il pu subir ce choc? Et ce missile qui a passé les défenses, ça renforce encore cette méfiance envers la capacité d'Israël à être vraiment suffisamment puissant, sans oublier les divisions internes à Israël, dont tout le monde se regorge autour d'Israël et où ils voient tous une fusibilité, une vulnérabilité, une faiblesse. Donc, la seule chose qu'on peut faire face à ça, évidemment, c'est pour les Américains et pour les Iraniens, renforcer autant que possible leur crédibilité, leur capacité de dissuasion, et ça, c'est pas facile.
Alors, Donald Trump va arriver dans la région, dans les prochains jours. Comment est-ce que vous voyez les développements des prochaines semaines, Daniel?
Mais voilà, c'est dans le contexte que je viens de décrire. Cette tournée de Trump dans le Golfe se fait évidemment sans Israël, sans même que Trump s'arrête à Israël, sans Israël. Donc on peut tout espérer, mais aussi on peut tout craindre. Faut pas oublier que derrière, en plus, il y a cette conférence à l'ONU que la France a essayé de mettre en place avec l'Arabie Saoudite, où la France menace même de reconnaître l'État de Palestine. Donc il y a beaucoup de projets qui sont extrêmement inquiétants à l'horizon. Est-ce que l'appui américain à Israël sur la guerre à Gaza, qu'il faut absolument gagner, si on veut pas encore aggraver notre manque de dissuasion. Et puis il faut observer tout ce que j'appelle les travaux de Trump, ces négociations avec Poutine qui sont quand même dans l'impasse. Les négociations commerciales bientôt vont. Trump a suspendu pendant 90 jours, sauf pour la Chine, toutes les taxes, et il négocie avec tout le monde. Mais quel sera le résultat de ces négociations commerciales, y compris pour Israël? Donc tout ça, c'est une inconnue. Et la dernière inconnue, c'est la situation économique américaine, parce que tout ce que fait Trump va finir par rejaillir sur l'économie américaine et mettre en danger même la confiance que les Américains ont dans Trump. Donc tout ça, ces prochaines semaines sont, je pense, je ne sais pas si on peut dire qu'elles sont cruciales, elles sont en permanence cruciales, mais elles seront très importantes. Et puis je n'oublie jamais que par-dessus tout ça, l'islamisme, celui des frères musulmans, cet islamisme mondial, capitalise sur tout ce qui se passe dans la région pour aggraver la situation auprès des opinions publiques. Alors les opinions publiques des pays musulmans sont chauffées à blanc contre Israël, mais je vois que même dans les opinions occidentales et même chez les juifs, naissent un certain nombre d'interrogations sur l'opportunité de continuer à bombarder Gaza, sur la capacité du Premier ministre d'être un bon Premier ministre. Donc tout ça affaiblit Israël, et c'est bien le but poursuivi par l'islamisme mondial.
Et ça nous donnera de la matière pour nos prochaines conversations dans les prochaines semaines.
Absolument.
Daniel Haber, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. On se retrouve la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.